Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Salut Martin.
Hey Martin, comment ça va ce matin?
Bon matin les gars, vous êtes beaux dans votre quoi, salle de conférence d'hôtel ou salle de petit déjeuner?
Oui, ouais, c'est de la parqueterie, là, c'est du tapis, mais oui, c'est... mais on a plein de monde. Dites allô à Martin Leclerc, tout le monde. Allô Martin!
Salut tout le monde!
Il y a plein de monde derrière nous. Hey Martin, hier quand la nouvelle est sortie, je l'ai envoyé tout de suite parce que ça n'a aucun bon sens le prix des franchises professionnelles maintenant. Parle-nous un peu de la vente des Celtics de Boston, c'est complètement fou.
Oui, Celtics de Boston, une des concessions sportives les plus prestigieuses en Amérique du Nord, là, tout sport confondu, qui ont été vendus hier. C'est une organisation, les Celtics, qui avait un propriétaire, qui avait une situation très stable de ce côté-là. L'équipe appartenait au même propriétaire depuis 2002, un monsieur qui s'appelle Wycliffe Grusbeck, qui avait acheté l'équipe pour 360 millions en 2002 avec des partenaires. Et hier, ils ont vendu leur équipe pour 6,1 milliards de dollars.
Aïe, aïe!
C'est un rendement, pour ceux qui aiment les statistiques, là, qui aiment suivre l'évolution des rendements, c'est un rendement de 1694% sur leur investissement.
J'ai acheté ça en 2003, autres, 2004, je pense.
2002. Puis j'ai fait le calcul hier, là, si M. Grusbeck avait placé son argent à la bourse en 2002, s'il avait placé ses 360 millions à la bourse sur l'indice Standard & Poor's, aujourd'hui, son investissement vaudrait 2,9 milliards, un petit peu plus que 2,9 milliards.
Plus que doublé.
Ça veut dire que c'est plus que deux fois le rendement du marché, et c'est pour ça que tous les milliardaires... En Amérique du Nord, quand il y a une équipe à vendre, il y a beaucoup de gens intéressés parce que ça rapporte, le rendement est extrêmement élevé. Là, c'est absolument incroyable.
Mais ça n'a aucun bon sens. Tu sais, quand on parle maintenant là, d'équipe d'expansion dans la Ligue nationale de hockey à venir, on va finir. Faut vraiment avoir beaucoup de sous pour être en mesure d'acheter une équipe de hockey, d'en transférer une, même les coûts pour les arénas et tout ça. Être propriétaire d'équipe sportive, ça coûte cher, mais ça rapporte des sous. Tu payes pas 6,1 milliards pour pas faire d'argent avec.
Non, mais c'est que tu peux-tu réellement être perdant à un moment donné? On dirait que ça ne fait qu'augmenter. Si t'as les moyens, c'est le meilleur investissement en ville.
Ouais. C'est sûr que le gars qui a fait la franchise à 6,1, d'après moi, son rendement sera pas comme l'ancien propriétaire.
Là, c'est sûr. Certain, mais s'il l'achète, c'est parce qu'il pense qu'il va faire des sous.
Ah oui, mais c'est juste 1 milliard dans 3-4 ans. C'est 1 milliard. C'est énorme, c'est payant.
Imaginez, là, si tu payes quelque chose, 6,1 milliards, habituellement, quand tu achètes une entreprise, tu payes quelque chose comme 8 fois ou 10 fois les profits annuels, des fois 12 fois. Fait que faites le calcul, là, à quel point c'est profitable à chaque année. Si tu payes 6,1 milliards, ça veut dire que cette équipe-là fait des centaines de millions de profits annuellement. Là. Fait que c'est une machine à imprimer de l'argent. Et moi, je suis très impressionné par la sagesse du monsieur qui a acheté les Celtics, qui s'appelle Bill Chisholm. C'est un gars de Boston qui a grandi en applaudissant les Celtics, qui a lancé une firme d'investissement en Californie il y a une vingtaine d'années, puis que visiblement, il a fait beaucoup d'argent avec ça. Ouais. Mais il prend le contrôle, il achète l'équipe, puis il laisse l'ancien propriétaire rester en poste pour continuer à opérer l'équipe pendant les trois prochaines années. C'est quand même particulier. Ouais, hein? Wow. Tu t'achètes un jouet à 6,1 milliards, puis tu dis au gars qui est en place, écoute, ça va bien, vous avez une équipe gagnante, vous avez remporté le championnat l'année passée, on pense qu'on va remporter encore des championnats au cours des prochaines années. Fait que tu fais bien ça, reste en poste.
Martin, ça veut dire que c'est une transaction purement financière. Là. Ouais. Parce que lui, il n'a pas envie de s'amuser avec son équipe. Lui, il a juste vu les X et O, puis il s'est dit, tantôt, je vais faire de l'argent, le reste, m'importe peu. Il n'est pas là pour se mettre les deux mains dedans.
Il aime vraiment le club, il veut que le club gagne.
C'est ça.
Exactement. C'est un gars qui est passionné, puis il a beaucoup de gens dans la NBA, semblait-il, hier, qui disaient, voyons donc, ça n'a aucun bon sens, t'achètes une entreprise, puis tu ne veux pas l'opérer. Puis lui, il a dit au contraire, tu sais, c'est un no-brainer. Là, si tu es un fan de basketball comme moi, puis tu es passionné, puis tu veux remporter des championnats, le gars qui est là en place a construit une équipe gagnante qui va probablement remporter plusieurs titres. Pourquoi je viendrais défaire ça? Puis, tu sais, on a des. Ça m'a fait penser. Je racontais dans la biographie de Gilles Lupien ce qui est arrivé à la dynastie du Canadien à la fin des années 70. Ouais. Là, T'sais, après trois Coupes Stanley, après la troisième des quatre Coupes Stanley, l'équipe a été vendue par la famille Bronfman. C'est les Molson qui ont acheté l'équipe. Ouais. Puis là, ça s'est bousculé. Là. Les propriétaires sont arrivés. Puis Sam Pollock est parti, le directeur général, qui était avec l'équipe depuis le début des années 60, qui avait construit beaucoup d'équipes gagnantes. Le directeur général a été remplacé par Irving Grondman, ouais, qui était un gérant de salle
de bowling.
Scotty Bowman, qui était l'entraîneur, a été très fâché de ça, de ne pas avoir le poste de directeur général. Il est parti l'année après, puis la dynastie s'est démolie très, très rapidement. Alors, si la stabilité, c'est un facteur de succès important dans le monde du sport, et c'est probable, je trouve que c'est un geste très intelligent du nouveau gars qui arrive, qui dit « Moi, je suis un gars d'investissement, je ne suis pas un gars de basket, je vais prendre le temps de regarder comment ça marche, comment c'est opéré à l'interne, puis on a du monde compétent qui est là, puis ça ressemble à ce qui est arrivé chez le Lightning de Tampa Bay. Souvenez-vous, au début de la saison, on a annoncé que le Lightning avait été vendu pour 1,8 milliard.
Ouais.
C'est des investisseurs qui ont acheté ça, puis ils ont demandé à Jeff Vinnick, le propriétaire du Lightning, de rester puis de garder le plein contrôle pour 3 ans pour continuer à opérer. On dit, vous avez une organisation qui a du succès, qui vous savez comment ça fonctionne, vous connaissez votre personnel, fait continuez à l'opérer pendant 3 ans, puis quand on aura vu comment ça fonctionne de l'interne, bien, on prendra les commandes par la suite.
Mais là, ouais, circuit par circuit, est-ce que le basket et le sport ou les franchises valent le plus ou ont le plus augmenté en termes de valorisation?
Oui, bien écoute, j'ai fait ces calculs-là il y a quelques mois. C'est drôle parce que la négociation de convention collective s'en venait dans la Ligue nationale de hockey. Puis je voulais mesurer la fortune qui échappe aux joueurs parce que le partage de 50-50 qui existe entre les joueurs et les propriétaires, ça concerne les revenus de la saison, mais les joueurs ne touchent pas au profit que les propriétaires font quand ils revendent leur équipe. Et c'est pas mal là que l'argent se trouve. Et c'est quand même hallucinant. Là, dans la NFL, j'ai compté pour une période de 20 ans, dans la NFL depuis 2024, la valeur des franchises s'est appréciée de 777%.
Depuis 2004.
Sur une période de 20 ans, fait que c'est passé de 733 millions à 5,7 milliards la valeur des équipes au cours des 20 dernières années. Mais la NFL, c'est la ligue la moins performante en appréciation de valeur. Dans le baseball majeur, c'est passé de 295 millions en 2004 à 2,4 milliards. Fait que ça a été une appréciation de la valeur de 813%. Puis étonnamment, la Ligue nationale vient au deuxième rang, c'est-à-dire là, des augmentations de valeur les plus importantes. Dans la Ligue nationale, c'était 163 millions il y a 20 ans, la valeur d'une concession. Puis aujourd'hui, c'est 1,79 milliards. Fait que si vous demandez pourquoi Gary Bettman est aimé par les propriétaires, bien c'est ça, sûr. C'est 1098%.
C'est incroyable.
Et les grands champions, c'est la NBA. Là. C'est la valeur des équipes a monté de pas loin de 1500% au cours des 20 dernières années, en moyenne. C'était 302 millions en 2004. C'est 4,4 milliards en moyenne aujourd'hui. Puis on a vu, avec la vente des Celtics, 6,1 milliards. En passant, les gars, on parle souvent durant la saison, quand les évaluations de Forbes sont publiées. Puis on dit, bon, mais là, selon Forbes, le Canadien vaut tant, ou les Rangers ou les Red Sox de Boston, bien, au mois de novembre, Forbes évaluait les Celtics de Boston à 6 milliards, puis ils ont été vendus 6,1 milliards. Fait que c'est pas mal sur la cible.
Ouais, pas mal sur l'évaluation, mettons.
Ils sont honnêtement très, très forts. Là. Fait que on parle pas dans le vide quand on rapporte ces évaluations-là.
Ouais, vraiment pas, mais tu sais, c'est un peu l'histoire aussi de Michael Lauer, mettons qu'il y a 10% du Canadien de Montréal qui vend ses parts pour acquérir les Sénateurs, mais ça vaut je sais pas combien de fois l'argent qu'il a mis.
Sûr.
C'est fou l'argent dans le sport. Rapidement, Martin, en terminant, un mot sur le match d'hier, le Canadien n'a pas été en mesure de couper la jugulaire des Islanders.
Ouais, et ça, je trouve que c'est le plus triste de la soirée d'hier, parce que quand t'es dans une course à plusieurs équipes, des soirées parfaites comme ça où toutes les planètes s'alignent et que tu as la chance de prendre une avance sur tout le monde. Exact. C'est très, très rare. Là. Ça arrive une fois par 10 ou 12 matchs. Tu sais, puis un, il faut que tu gagnes, il faut que tout le monde perde derrière toi. Puis tu sais, le Canadien affrontait un adversaire. On s'entend, là, les Islanders, ils sont pas mal beiges comme équipe de hockey. Tu sais, ils n'ont pas de traits dominants. Ils ont pas d'attaque. Défensivement, ils sont ordinaires. Leurs unités spéciales sont absolument sont dégueulasses.
Ouais.
Puis ils ont liquidé à la date limite des transactions. Fait que c'était un adversaire qui était prenable. Puis ben le Canadien oui. Le Canadien a fait toutes les bonnes choses. Ben, plus de tirs au filet, plus de chances de marquer. Mais
plus de possession de rondelles. Il y avait toujours le puck.
Notre gardien n'a pas fait le job, Martin. That's it.
Oui, oui. Moi, c'est ce que je retiens du match d'hier. C'est que on a commencé la semaine en disant à quel point Samuel Montembeau est extraordinaire puis qu'il était dans la même ligue que Connor et les Bucks depuis la pause des Quatre Nations. Ouais. Là, ça fait deux matchs difficiles qu'il a. Puis je pense que le Canadien doit faire attention à ça, doit se poser la question.
Tu fais jouer de bêche demain, Martin? On se pose la question tout à l'heure.
Ben moi, j'ai confiance en Dobesh. J'ai autant confiance en Dobesh qu'en Samuel.
Ben oui. Honnêtement. Présentement, c'est ça, là.
Et tu sais, tu regardes Samuel, il se dirige vers une saison pas loin de 60 départs. Il n'a jamais fait ça. Mm-hmm. Dans la Ligue nationale, dans les cinq dernières années, il y a juste 9 gardiens qui ont fait des saisons de 60 départs et plus. Il y en a qui l'ont fait à plusieurs reprises, comme Saros, comme Vasilevski. Mais et Samuel ne s'est jamais approché de ça. Et quand ton gardien, moi je pense que quand ton gardien il accorde des mauvais buts, un ou deux mauvais buts, dans deux matchs de suite, des rondelles qui passent à travers lui, il te parle. C'est comme s'il te parlait, là. C'est comme s'il te disait, tu sais, peut-être qu'on est dû pour faire un petit reset. Fait qu'il faut faire attention à ça parce qu'un gardien qui manque de gaz dans le dernier droit, ça peut couler ton équipe et il faut faire attention.
C'était des mauvaises sorties de son filet aussi, tu sais.
Ah oui.
Mauvaise communication avec les défenseurs hier, c'était pas sa game.
Martin a un bon point quand il dit « le gardien, tu parles ». Admettons que tu t'entêtes avec Montembeau, puis tu réussis parce que le premier trio est feu de flamme, puis tu réussis à gagner des matchs, puis tu te sens les coudes. Rendu en série, là, ça sera pas mieux. Là. Ah. Bon, la langue à terre. Fait qu'à un moment donné, je comprends qu'on veut se qualifier pour les éliminatoires puis on veut mettre un homme de confiance devant le filet. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Sinon, ça va faire comme Connor le Buck l'année dernière. Puis il était pas l'ombre de lui-même rendu éliminatoire parce qu'il n'y avait plus d'essence dans le réservoir. Ouais.
Mais si on met de bêche dans le net, il va lui donner une chance de gagner.
Ben oui,
c'est ça. Il a bien joué à Colorado, là, en plus, la dernière fois qu'on a joué contre eux autres.
De bêche for the biggest game of the year.
Biggest game of the year, de bêche dans le net. Regarde, tu sais que ça sera monté en bas prochaine fois, puis c'est pas
ça. Sera ça. Que ça. Hey, Martin, merci de ton temps. Vas-y.
Non, ben écoute, c'est ça. Je pense qu'il faut faire attention à ça. On a une tradition, c'est dans la culture de l'organisation. Dans le passé, on n'a jamais eu peur de sortir des jeunes gardiens dans des moments critiques. Puis Dobesh, honnêtement, tu sais, il inspire confiance à ses coéquipiers. C'est pas comme si on avait un déséquilibre, un gouffre entre le talent des deux gardiens.
Ouais.
S'il est capable de battre des équipes dominantes sur la route, il est capable de les battre au Centre Bell aussi, là.
Ah, je pense que oui. Je pense que oui, puis nous a donné
intéressant, ça va être bon, ça va être bon demain.
Ça va être quoi, Gilbert?
The biggest game of the year, comme tout le temps.
Comme tout le temps.
C'est la fin de l'année, Tony, je te le dis tout de suite, là. Il reste 14 games, c'est tout the biggest game of the year.
Ça a commencé avec les Jets de Winnipeg, tout ça.
Ouais, monsieur. Regarde qu'est-ce que ça fait, là, on a des T-shirts, on a toute la patente. On va faire le choix la semaine prochaine avec nos T-shirts sur le dos.
Oui, j'ai hâte de savoir tout à l'heure, à la fin de l'émission, combien de chandails on va avoir vendu.
Martin va s'en acheter un.
Martin va s'en acheter un.
Certain.
Là, je vais en acheter une coupe, je vais en donner à mes chums aussi.
Ah oui, j'espère. Colin, tes chums du podcast, le Gascon et Marc-Antoine.
Oui.
Ah, ce serait intéressant de les voir avec ça. Hey, peut-être pas game de mettre ça au prochain podcast.
Écoute, mets-nous pas au défi.
Écoute, moi, te les payer pour que tu le fasses, ça va faire plaisir. Hey, Martin, merci d'être passé dans le show. On se retrouve lundi, même heure.
Bonne fin de semaine, Martin.
Bonne fin de semaine, les gars. Bye-bye.
Hey, bonne fin de semaine, Martin Leclerc. Tout le monde, on applaudit. Un de nos segments favoris dans le show.